invité, je vous propose une incursion dans un milieu très fermé, celui des survivalistes. Ça fait plus de 60 ans qu'ils se préparent à une crise mondiale. C'était eux qui construisaient des abris anti-atomiques dans leur jardin. Si leurs activités ont évolué, ils existent toujours. Et c'est vrai qu'en pleine pandémie mondiale, on peut se demander s'ils n'avaient pas un peu raison de se préparer au pire. Pour en parler ce matin, nous sommes avec l'anthropologue Mathieu Burgalassi, qui a enquêté pendant 6 ans, infiltré chez les survivalistes français puis américains. Une enquête dont il a tiré un roman, La peur et la haine, paru chez Michel Lafon et qui témoigne d'une violence impressionnante dans ces milieux. Bonjour Mathieu Burgalassi.
Bonjour.
Vous êtes en train de terminer votre thèse d'anthropologie consacrée au survivalisme. Alors je vais commencer par vous demander une définition. De quoi parle-t-on exactement quand on parle de survivalisme ?
En fait, les survivalistes, c'est des gens qu'on connaît assez mal. On imagine souvent des espèces de tarés de la fin du monde qui vivraient dans des bunkers avec des gros fusils, ou au contraire, on est plutôt sur des espèces de gentils autonomistes qui feraient ça comme un petit loisir le week-end. La réalité, c'est que les survivalistes, c'est ni l'un ni l'autre. Quand moi j'étais sur le terrain, je rencontrais surtout des gens qui me disaient, eh bien, préparer une guerre civile, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est des gens qui se disent que demain il va y avoir une crise, ça peut être n'importe quoi, une crise économique, une crise écologique, une crise sanitaire comme le Covid, mais que cette crise elle sera tellement violente, tellement importante que l'État va se retrouver en faillite, et du coup ben, il n'y aura plus de police, plus d'hôpitaux, plus de pompiers, les gens vont se retrouver livrés à eux-mêmes. Et le pari des survivalistes, c'est de se dire, eh bien, dans cette situation, l'homme va devenir un loup pour l'homme, et le gentil voisin qui m'aide parfois à monter mes courses quand sa femme sera malade, que ses enfants auront faim, qu'il y aura des faillites alimentaires, des faillites médicales, eh bien peut-être qu'il prendra une hache, il viendra défoncer la porte de chez moi pour me voler mes ressources. Et du coup, c'est ça que préparent les survivalistes. C'est pas la fin du monde, mais c'est une situation de guerre civile au sens le plus littéral du terme. Une guerre civile au sens où le voisin, la personne qui vit à côté, ça va devenir un ennemi à combattre, à tuer peut-être.
Alors Mathieu Burgalassi, on gratte un peu le monde du survivalisme, c'est assez violent, des gens qui se préparent à une guerre civile, et c'est ce qu'on voit dans votre livre. Vous avez mis un peu de temps à comprendre ça, parce que dans votre livre, c'est pas un livre de recherche, c'est un livre dans lequel vous nous racontez votre histoire et comment vous avez fait votre recherche, et du coup pour ça vous vous êtes infiltré chez les survivalistes, et ce dont vous vous rendez compte au bout de quand même un petit temps, c'est que si ces gens préparent une guerre civile, ça veut dire aussi qu'il y a un ennemi à éliminer. Quel est cet ennemi ?
Eh bien, en fait, l'ennemi des survivalistes, ça va être l'ennemi ordinaire des politiques sécuritaires, parce que ce dont je me suis rendu compte sur le terrain, c'est que les survivalistes, en fait, ils ne préparaient pas la guerre civile parce qu'ils avaient inventé ça tout seuls, mais ils inventaient la guerre civile parce qu'ils étaient dans une peur qui était construite par des discours politiques qui sont les discours ordinaires de la peur, de l'insécurité, tels qu'on les retrouve absolument partout dans le discours politique aujourd'hui en France. Et ces discours, en fait, ils ont tendance à désigner un groupe à risque que l'on considère comme responsable de toutes les peurs, de toutes les violences qui touchent les communautés nationales. Et donc, en fait, je me suis rendu compte que c'était les cibles des discours sécuritaires qui devenaient les ennemis des survivalistes. Et malheureusement, ces cibles-là, aujourd'hui, ce sont des personnes non blanches, ce sont les musulmans, notamment en France. Il y a des lois comme la loi sécurité globale ou la loi séparatisme qui ciblent clairement des communautés. Et ces communautés-là deviennent les ennemis imaginés des survivalistes. Donc on voit qu'en fait, par les politiques sécuritaires, les survivalistes entrent dans une peur qui petit à petit va les amener dans une haine de l'autre, voire dans une violence envers l'autre.
Est-ce que c'est eux, par exemple, qu'on a vu au Capitole ?
Non, je pense pas que c'était des survivalistes. C'est possible qu'il y en avait dedans, mais a priori, c'était plutôt la mouvance QAnon. Et donc, c'est différent. Les survivalistes, c'est pas des gens qui sont complotistes par définition. Hein. C'est plutôt des gens qui sont, comme je dis, dans cette relation à la guerre civile. Ils sont persuadés qu'il va y avoir cet effondrement de l'État, cette guerre civile, et il va y avoir ces moments d'affrontement. Et quand ils pensent à cet affrontement, forcément, ils imaginent un ennemi. Et l'ennemi, eh bien, ça devient souvent l'autre, malheureusement.
Alors, dans votre livre, Mathieu Burgalassi, on apprend beaucoup de choses, mais il se lit vraiment comme un roman, et vous décrivez des scènes hyper violentes dans des stages de survivalisme où on vous torture littéralement. Mais en nous racontant votre propre histoire, on comprend aussi pourquoi quelqu'un peut tomber dans le survivalisme. Parce que c'est ce qui vous est arrivé, en fait, au départ. Racontez-nous ce qui vous a amené à ça.
Ben moi, en fait, je me suis fait un jour agresser, une agression très violente. Je rentrais chez moi et j'ai été tabassé dans la rue par un groupe de gars qui m'a laissé pour mort sur un coin de trottoir. Et après ça, j'ai commencé à vivre avec une peur profonde, une peur viscérale qui s'est
qui s'est transformé en dépression et j'avais des idées noires, des idées de plus en plus noires qui sont devenues ensuite tout simplement des idées suicidaires. Et je savais plus comment m'en sortir. Et là, quelqu'un m'a parlé d'un truc, ça s'appelait Krav Maga, espèce de sport de self-défense israélien. On n'avait jamais entendu parler. Je me suis dit, peut-être que c'est ça qui va m'aider à guérir de ma peur. Et donc, je suis allé m'inscrire dans un club. Mais il se trouve que le club, par hasard, était géré par un survivaliste et fréquenté par des survivalistes. Et donc, j'ai commencé à entendre parler de la pratique. Et à cette époque-là, moi, j'étais étudiant, j'étais très précaire. Et en fait, le survivalisme, ça m'a semblé logique, ça a résonné avec la précarité que je vivais à ce moment-là de ma vie, parce qu'on présentait la pratique comme une pratique tournée vers l'autonomie, une pratique tournée vers le fait d'être un citoyen responsable qui essaie de se préparer à une situation peut-être de difficulté financière. Donc ça me semblait logique. Mais la réalité, c'est que plus j'entrais dans la pratique, plus j'entrais dans la violence. Et un jour, je me suis allé à un stage organisé par mon instructeur, un petit stage de survie. Je suis rentré, j'étais un mec normal. Je suis ressorti 3 heures plus tard. J'avais appris à égorger des gens, j'avais appris à étrangler des gens par derrière avec une porte, j'avais appris à fracturer la trachée de quelqu'un. J'avais appris des techniques de meurtre, tout simplement. Et là, je me suis dit, OK, qu'est-ce que c'est que cette pratique où on apprend à assassiner les autres? Et pourquoi moi? Pourquoi tous les autres autour? Alors qu'on vit en France, un pays qui n'a jamais eu de guerre sur son sol, on ressent autant le besoin d'être en capacité d'utiliser des techniques de guerre, ça n'a pas vraiment de sens. Et donc c'est là, en fait, où mon intérêt personnel est devenu un intérêt de chercheur qui m'a amené à écrire La peur et la haine.
Vous le disiez hein, au départ, il y a quand même un versant un peu plus sympathique des survivalistes qui fait que vous y avez adhéré au départ, qui est de dire il faut être autonome, apprendre à être autonome dans son alimentation, par exemple. Ça n'est qu'un vernis ou bien il y en a quand même des gentils, entre guillemets?
En fait, c'est ni un vernis, ni la preuve qu'il y aurait des gentils survivalistes et que les autres seraient des méchants. En fait, c'est une partie du survivalisme. Le problème, c'est que vouloir être autonomiste, vouloir avoir une ferme, vouloir avoir des ressources alimentaires chez soi, etc., ça n'exclut pas le fait de, à un moment donné, se dire « Oui, mais si demain il y a une crise, eh bien, l'État ne va pas forcément être en mesure de protéger tout le monde. Il y aura peut-être des pillages, il y aura peut-être des émeutes dans les rues. Et à ce moment-là, il faut que je sois en capacité de me défendre. » Et en fait, c'est cette logique d'être en capacité de se défendre, de protéger les autres, enfin les autres, et surtout les siens, qui va pousser les survivalistes à s'armer et à rentrer petit à petit dans l'engrenage de la violence. C'est pas des gens qui sont fondamentalement méchants, c'est des gens en fait qui mettent un pied dans une peur, qui est cette peur de se faire attaquer chez eux ou qu'il y ait un jour plus de police pour les protéger. Et à partir de là, qui vont commencer à escalader dans la violence petit à petit, ce que j'appelle un phénomène de brutalisation, qui vont aller de plus en plus loin dans la violence. Et arrive un moment, eh bien oui, ils deviennent dangereux pour les autres.
Est-ce que ces survivalistes, puisque au départ c'est le premier discours, hein, c'est de dire préparons-nous au cas où il y aurait une crise, un problème, ils ont du coup été triomphalistes pendant cette pandémie qu'on vient de connaître, finalement c'est un peu à ça aussi qu'ils se préparaient, comment ils ont réagi?
Eh bien, étonnamment, ça a été un espèce de non-événement dans la communauté. Justement, on aurait pu s'attendre à une espèce de triomphe des survivalistes sur le mode du « haha, on vous l'avait bien dit, c'est qui pour maintenant ?» Et c'est pas du tout ça qui s'est passé. Les survivalistes ont assez peu réagi au Covid. Mais je pense que quand on y réfléchit, c'est pas si surprenant, puisque comme je le disais, ce que prépare fondamentalement les survivalistes, c'est la guerre civile. C'est ce moment où l'État bascule et où il y aurait des émeutes dans les rues, où il y aurait peut-être des pillages, des choses comme ça. Et avec le Covid, évidemment, ce n'est pas du tout arrivé. Les États n'ont pas été mis en faillite. Il n'y a pas eu de grandes violences dans la rue. Donc en fait, pour les survivalistes, c'était pas un effondrement. Les survivalistes, ils ont vu, eux, c'est une crise. Donc quelque chose qui a renforcé leur conviction que de grandes crises pouvaient arriver. Mais ils n'ont pas non plus vu quelque chose qui était un effondrement tel que les effondrements qu'ils préparent. Donc pour eux, ça a été, comme je le disais, vraiment un espèce de non-événement global.
Eh bien, merci beaucoup, Mathieu.